de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
C'est Zerita Kebongsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. TPNW souligne que la possession d'armes nucléaires ne peut pas être justifiée, a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères. La souveraineté alimentaire énergétique est la grande vision de l'Indonésie, a affirmé Nabil Haroun. Président du DPR RI a discuté de l'IKN et de l'UDPAM avec le président du Conseil populaire de la Malaisie. Le tourisme axé sur le concept d'économie verte vise à réduire les émissions de carbone de 4% en 2035. La police régionale de Bali déploiera 4000 personnes pour sécuriser le sommet de l'AIS à Nusa Dua, Bali. Le bâti continuera à être promu au Japon, a affirmé l'ambassadeur Harry. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a déclaré que, sur la base du traité d'interdiction des armes nucléaires, TPNW, la possession et l'utilisation d'armes nucléaires ne peuvent être justifiées pour quelque raison que ce soit. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à la séance du ministère indonésien des Affaires étrangères avec la commission de la Chambre des représentants, DPR, concernant la ratification de la Convention d'interdiction des armes nucléaires à Jakarta, a déclaré lundi que, conformément au mandat de la Constitution, le gouvernement indonésien continue de s'engager à lutter activement pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Cet engagement se concrétise par un rôle actif dans la préparation du TPNW qui a été adopté le 7 juillet 2017 lors de la conférence des Nations Unies, ONU, qui vise à réglementer l'interdiction complète des armes nucléaires tout en garantissant le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur le 22 janvier 2021 et a été signé à ce jour par 93 pays, dont 69 ont ratifié le traité, y compris 6 pays membres de l'ASEAN, à savoir le Cambodge, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Thaïlande et Vietnam. La ministre des Affaires étrangères a souligné que la possession et l'utilisation d'armes nucléaires n'ont aucun impact positif sur le pays. Le membre du Conseil représentatif du peuple indonésien, M. Nabil Haroun, a déclaré que la souveraineté alimentaire et énergétique doit être la grande vision de l'Indonésie. La vision future de l'Indonésie doit reposer sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. Nabil Haroun, dans une déclaration écrite à Jakarta, lundi, a expliqué que la sécurité alimentaire en Indonésie doit être une politique stratégique exécutée de manière précise et tactique. Il ne doit donc pas s'agir uniquement d'un discours, mais doit être réellement appliqué de manière concrète et avoir un impact sur le public. Selon lui, l'Indonésie possède des richesses naturelles et des produits agricoles extraordinaires, ainsi que des produits marins. En dehors de cela, l'Indonésie possède le plus long littoral du monde et dispose d'un énorme potentiel économique. La présidente du Conseil représentatif du peuple indonésien, Puan Maharani, a rencontré le président du Conseil populaire malais, Tan Sri Dato' Johari Abdul, discutant de diverses questions allant du développement de la capitale nationale indonésienne, IKN, au renforcement de la coopération dans le secteur de l'industrie de l'huile de palme des deux pays. Puan Maharani a déclaré lundi après une rencontre au Parlement malais à Kuala Lumpur qu'elle avait discuté la manière dont les deux pays renforceraient davantage leurs relations qui ont été bonnes jusqu'à présent. Puan Maharani a souligné que plusieurs questions qui ont émergé et ont été discutées lors de la réunion étaient que la Malaisie était intéressée à aider ou à participer à la construction d'IKN. Comme tenu de son emplacement à Kalimantan, il est donc directement frontalier avec la Malaisie. Puan a ajouté que la réunion a également discuté des échanges entre les universitaires, chercheurs et penseurs des universités des deux pays pour voir comment les deux pays pourraient renforcer la sécurité alimentaire. Le ministre du Tourisme et de la Communauté Créative, Sandiaga Uno, dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta, lundi 3 octobre, a déclaré que le tourisme post-pandémique nécessite des investissements supplémentaires avec le concept d'économie verte. Selon Sandiaga Uno, le concept d'économie verte consiste à mieux gérer les déchets, à utiliser le plus judicieusement, à utiliser des énergies nouvelles et renouvelables et à réduire le gaspillage et les pertes alimentaires. Et le plus important, selon lui, est de savoir comment réduire les émissions de carbone des secteurs du tourisme et de la commerce créatif à 4% en 2035 et à zéro en 2050. Et le plus important est de savoir comment les émissions de carbone du secteur du tourisme et de la commerce créatif peuvent être réduites à 4% en 2035 et devenir nul en 2050. C'est ce que nous nous efforcerons en attirant davantage d'investissements. Sandiaga Uno a notre déclaré qu'après la pandémie, le ministère du Tourisme et de l'économie créative a mené des programmes de qualité et durable dans les villages touristiques. En outre, selon Sandiaga Uno, le ministère du Tourisme et de l'économie créative a également organisé des formations sur les produits de l'économie créative afin que les produits fabriqués soient plus durables. La police régionale de Bali déployera 4000 personnes pour sécuriser le sommet du Forum des États archipélagiques et insulaires AIS à Nusa Dua, Badung, Bali le 11 octobre 2023. Le chef de la police régionale de Bali, l'inspecteur général de la police Ida Bagus Kadeputra Narendra à Denpasar, Bali, a déclaré lundi que le personnel en attente devait renforcer le personnel du quartier général de la police de la République d'Indonésie ainsi que du TNI. Selon Ida Bagus Kade, sa partie s'est coordonnée avec le ministère de coordination des affaires maritimes et des investissements de la République d'Indonésie concernant divers préparatifs avant le forum. On sait que le sommet du forum insulaire et des paysans insulaires au forum AIS qui s'éteindra à Bali le 11 octobre 2023 réunira sept chefs d'État et de gouvernement des pays membres. L'ambassadeur d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, a déclaré que le bâti continuerait d'être promu comme l'un des patrimoines culturels les plus précieux de l'Indonésie et une fière identité nationale. L'ambassadeur Heri Ahmadi à Tokyo a déclaré lundi qu'en commémoration de la Journée nationale du batik 2023, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo a lancé une vidéo créative montrant des diplomates et du personnel de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo portant des vêtements en batik avec divers motifs au milieu d'activités de travail. Selon l'ambassadeur Heri, le batik n'est pas seulement un patrimoine culturel reconnu et admiré par le monde. Le batik est également devenu un mode de vie quotidien pour le peuple indonésien et les amateurs de batik du monde entier. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Maintenir la préservation du batik ». La Journée nationale du batik est célébrée chaque 2 octobre. Cette date était désignée Journée nationale du batik en référence à l'événement au cours duquel l'UNESCO a désigné le batik comme chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité le 2 octobre 2009. Aujourd'hui, 14 ans se sont écoulés depuis que le batik a été désigné patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Les efforts du gouvernement et du peuple indonésien pour préserver le batik se poursuivent. L'une des activités visant à préserver et à présenter le batik consiste à organiser un défilé de mode intitulé « Portant le batik au palais présidentiel » qui vise à mettre en valeur et à promouvoir la beauté du batik indonésien. Portant le batik au palais présidentiel s'est tenu devant le palais Merdeka à Jakarta dimanche 1er octobre 2023. Cette activité est une collaboration entre le ministère du Tourisme et de la Communication Créative et le ministère des Entreprises d'État, BUMN, soutenu par le gouvernement provincial du DKI Jakarta, BUMN, des entreprises régionales du DKI, le secteur privé et la communauté. Portant le batik au palais présidentiel a présenté un défilé de mode présenté par 506 mannequins, dont des ministres et vice-ministres et leurs épouses, des gouverneurs de toutes les provinces, des ambassadeurs de pays amis, des représentants des entreprises d'État, des représentants du palais de Yogyakarta, Solo et Cirebon, des mannequins professionnels et des personnalités publiques. Selon le ministre du Tourisme et de la Communication Créative, Sandiaga Uno, portant le batik au palais présidentiel a un impact sur le mouvement de l'économie créative en Indonésie car il implique de nombreux acteurs de l'économie créative afin qu'ils puissent ouvrir les domaines économiques et créer des emplois pour la communauté. Bien entendu, le défilé de mode portant le batik au palais présidentiel n'est qu'une façon parmi d'autres de préserver le batik. Préserver le batik est un effort très important pour préserver le patrimoine culturel indonésien. Certaines façons de le préserver incluent l'éducation du public sur l'histoire, la valeur et les techniques de fabrication du batik, afin qu'il puisse mieux apprécier sa beauté et sa signification. En outre, la communauté doit également soutenir les artisans du batik en achetant du batik aux artisans locaux et en soutenant l'industrie traditionnelle du batik. Maintenir les techniques traditionnelles de fabrication du batik en transmettant les connaissances à la génération suivante et encourager la protection juridique du batik en tant que patrimoine culturel, y compris la protection des droits d'auteur pour les artisans, sont des mesures importantes qui peuvent être prises pour que le batik ne soit pas revendiqué comme l'œuvre culturelle de notre nation. Ce qui est non moins important est de participer à la commercialisation du batik indonésien à grande échelle, tant au niveau national qu'international, afin d'accroître l'appréciation et la demande des produits du batik. Grâce à ces actions, on espère que le peuple indonésien pourrait préserver le batik en tant que partie importante du patrimoine culturel indonésien. On espère que la commémoration de la Journée nationale du batik pourra rappeler au peuple indonésien d'apprécier le batik en tant que vrai des enfants de la nation et patrimoine culturel qui doit être préservé. De cette façon, le batik sera transformé en un patrimoine connu dans le monde entier. Bonne journée nationale du batik. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 3 octobre 1932, l'Irak devient indépendant de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a d'abord conquis l'Irak aux Turcs ottomans pendant la Première Guerre mondiale. La Société des Nations lui a ensuite donné un mandat de gouverner en 1920. Le 3 octobre 1932, l'Irak obtint son indépendance de la Grande-Bretagne et fut constitué en royaume. En 1958, la monarchie fut abandonnée et la République d'Irak fut déclarée. De 1968 à 2003, l'Irak était contrôlé par le Parti socialiste Baas sous le régime de Saddam Hussein. L'invasion américaine en 2003 a renversé Saddam Hussein et a été remplacée par un gouvernement parlementaire multipartite. Passons maintenant à l'événement sur l'opération Hurricane, l'un des nombreux essais d'armes nucléaires en Australie a été mené. L'opération Hurricane était le premier essai nucléaire britannique le 3 octobre 1952. Une bombe atomique de type implosion avec un noyau de plutonium a explosé sur le navire HMS Prime dans les eaux des îles Montebello, en Australie occidentale. Cette bombe avait une puissance explosive d'environ 25 kilotonnes de TNT ou 100 terajoules, détruisant le navire et créant un cratère en forme de bol de 6 mètres de profondeur et 300 mètres de largeur sur le fond marin. Cette opération était l'aboutissement du projet de recherche sur les explosifs puissants mené après la Seconde Guerre mondiale dans le but de fabriquer une bombe atomique pour l'Angleterre. Avec ce test, la Grande-Bretagne est devenue le troisième pays doté de capacités nucléaires après les États-Unis et l'Union soviétique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 3 octobre 1990, la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Après la chute du mur de Berlin le 9 et 10 novembre 1989, le dirigeant est-allemand Erich Honecker est contraint à la démission. Cette pression a poussé Honecker à quitter son poste en octobre 1989 et a été suivi par la formation d'urgence dans le Parlement est-allemand. Le Parlement d'urgence a ensuite organisé les premières élections ouvertes de l'histoire de l'Allemagne de l'Est le 18 mars 1990. Ces élections ont été remportées par l'Alliance pour l'Allemagne au Alliance for the Children, soutenu par le mouvement pro-démocratie. Le nouveau Parlement élu lors des élections de 1990 a soutenu et ratifié l'idée d'une rééducation allemande qui avait commencé à se renforcer depuis la chute du mur de Berlin. Le désir de réunification s'est ensuite concrétisé à travers les négociations 4+2 qui étaient menées par l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, ainsi que par les quatre pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les premières négociations 4+2 ont eu lieu à Ottawa, au Canada, en février 1990. Après cela, une réunion de suivi le 12 septembre 1990 à Moscou a convenu du traité 4+2. Grâce à ce traité, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est ont convenu de s'unir à nouveau. Le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande ou Allemagne de l'Est fusionne avec la République fédérale d'Allemagne. C'est juste tard, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
So into you, baby, you so beautiful. I gotta admit that you the one that got me feeling cynical. Mistakes I made a few, but I know I could be a better man. Only if you give me chance, baby, let me prove. I wanna make you my wifey, share my lifey. We could talk about anything, baby, we could share the views. Relationships ain't perfect, and I know I ain't perfect, but I could perfectly tell you that you make me feel so good. I just wanna tell you the way you came in my life. Now I believe in miracles. You's an angel from heaven, came down to save me from seven. Now I know in life anything is possible. I'm so proud of you, I would never lie to you, especially to you, somebody so compatible. And every time I wake up right next to you, caressing you, I know why. She don't give a damn about Gucci or Prada. The type of girl that you wanna hold in your arms forever, 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 ever. Yeah, forever, forever, ever. Yeah. You got me feeling so good, I'm always in the mood when I'm around you, so yes, we should. Make love all night, dim the lights down, play the right songs, need you right now. Very right, do you right, shorty like it, you my life. You're my birthday, party like your birthday. Let me see you wear your birthday suit. Shorty wanna get down, baby, we can make sound all night, we can sip that too. And every time I wake up right next to you, caressing you, I know why. Cause aku cinta kamu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Gouvernement indonésien envoie 46 tonnes d'aide humanitaire à la Libye » avec Maudry. Chaque jour, le gouvernement indonésien a envoyé 46 tonnes d'aide humanitaire d'une valeur de 13,9 milliards de roupies aux communautés touchées par les inondations provoquées par la tempête méditerranée Daniel en Libye début septembre. Le déblocage de l'aide humanitaire a été effectué par l'adjoint par intérim pour la coordination du développement régional EGAL et de la gestion des catastrophes au ministère de coordination du développement humain et de la culture, Sorni Pascardaili, en collaboration avec le secrétaire principal de l'Agence nationale de gestion des catastrophes BNPB, Roustian, et un certain nombre de représentants de ministères et d'institutions. Sorni Pascardaili et l'aéroport Soekarno Hatta en Grand Banten, lundi 2 octobre, a expliqué que, voyant les pertes importantes causées par les inondations, le gouvernement indonésien, en tant que pays ami de la Libye, avait envoyé de l'aide pour soulager les victimes. Selon Sorni Pascardaili, l'aide envoyée a pris la forme de logistique et d'équipement totalisant 46 tonnes composées de tentes, de vêtements, d'outils, de menuiserie, d'outils de distillation, distillation d'eau, de plats préparés et d'équipements hygiéniques. Selon Sorni, il existe au total 27 types d'assistance. Sorni a expliqué que la fourniture de l'aide du peuple indonésien au peuple libyen faisait partie de la solidarité humanitaire de l'Indonésie avec le monde. Selon Sorni, conformément à l'accord et au Conseil des ministres, pour le moment, l'aide ne sera envoyée qu'une seule fois. La délégation chargée d'envoyer de l'aide humanitaire en Libye était dirigée directement par le secrétaire principal du BNPB, Roustian, et composée de représentants des ministères et institutions concernées. La livraison de l'aide devrait avoir à l'aéroport international de Benina, à Benghazi, en Libye, et elle sera reçue par des responsables du gouvernement libyen. Auparavant, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avait signalé le 21 septembre que plus de 43 000 personnes avaient été forcées de fuir en raison des inondations dévastatrices survenues précédemment dans l'est de la Libye. En dehors de cela, des milliers de personnes seraient mortes. Bon, chers auditeurs, c'est tout, mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter Soto Kramut, le soto unique de Purbalingga. Le soto, ou ce qu'on appelle souvent soto ou choto, est une soupe traditionnelle à base de bouillon, de viande et de légumes. La viande la plus souvent utilisée est généralement le bœuf et le poulet. Ce plat, avec de nombreuses variantes dans chaque région d'Indonésie, y compris avec des ingrédients différents, comme par exemple dans la ville de Purbalingga, vous trouverez un type unique de soto appelé le soto kramut. Cette concoction soto est unique car elle utilise de la genoix de coco pour remplacer les vermicelles et utilise de la sauce aux arachides. Ce qui est unique, c'est que le type de soto utilise de la jeune de noix de coco comme ingrédient principal. C'est pourquoi on l'appelle kramut, qui signifie le jeune noix de coco. Le soto kramut est fabriqué à partir de jeunes chairs de noix de coco râpées, en remplacement des vermicelles. Et avant de servir, la jeune chair de noix de coco râpée est saupoudrée de sel et ensuite cuit à la vapeur pendant 30 minutes afin que le goût cru disparaisse. Dans une portion de soto kramut, il y a aussi des germes de soja, des craquelins écrasés et de la viande de poulet déchiqueté. Le soto est servi dans une coque de noix de coco. On n'utilise pas les bouillons d'eau de coco, mais on utilise des bouillons de soto sanglé de coco. Alors que le soto est généralement consommé avec du riz ou du ketupat, le soto kramut est consommé avec des ingrédients autres que le riz, à savoir le ciwal. Ciwal est une collation brune noire à base de farine de manioc, trempée dans un liquide trempage de paille de riz. Ce ciwal a une texture moelleuse. Il convient lorsqu'il est consommé avec du soto kramut. Ce plat est facile à trouver dans la ville de Purbalingga. Et d'habitude, les commerçants vendent du matin jusqu'au soir avec un prix environ 15 000 jusqu'à 20 000 rupiah par portion. J'ai remis cet magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulé Soto Kramut, le soto unique de Purbalingga. Merci à tous, à bientôt.
Mau untuk ber-
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger des radios République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Maukah kamu ?»« Maukah kamu ?»« Voulais-tu ?» Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien, intitulé « Maukah kamu ?»« Maukah kamu ? Voulais-tu ?» Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de la communauté de vlog de Chris. Chris a demandé à Sortauli de l'accompagner pour visiter le musée où est né Bung Hatta.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum rumah kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Maukah kamu? Maukah kamu? Voulais-tu? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Maukah kamu? Maukah kamu? Voulais-tu? Écoute, écoute, venir. Kesana, kesana, là-bas. Maukah kamu ikut kesana? Maukah kamu ikut kesana? Voulais-tu y venir? Tempat, tempat, lieu. Saya ingin, je voulais, kunjungi, visiter, kemana, où, museum, musée, rumah kelahiran, maison de naissance, Bung Hatta, Monsieur Hatta. Sergio Itard, dans la conversation, vous avez entendu les mots ou l'expression Maukah kamu ikut kesana? Maukah kamu ikut kesana? En français, voulais-tu y venir? Dans cet énoncé, il y a l'expression Maukah kamu? Maukah kamu? Voulais-tu? L'expression Maukah kamu? Voulais-tu? Est utilisée pour exprimer une demande de faire quelque chose. Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, vous pouvez utiliser l'expression Maukah kamu, voulais-tu, qui est suivie d'une expression qui précise l'activité attendue, comme ikut kesana, y venir. Cela devient donc Maukah kamu ikut kesana, voulais-tu y venir? Chers amis, un autre exemple. Allez, écoutons un exemple d'utilisation de l'expression Maukah kamu. Maukah kamu, voulais-tu, pour exprimer une demande dans une autre phrase. Maukah kamu menemani saya? Maukah kamu menemani saya? Veux-tu m'accompagner? Maukah kamu datang ke rumah saya? Maukah kamu datang ke rumah saya? Veux-tu venir chez moi? Chers amis, Bung Hatta est le surnom de Mohammad Hatta. Il est premier vice-président de la République d'Indonésie. Bung
est un mot de salutation pour les hommes adultes en Indonésie. Dans la ville de Bukit Tinggi, il y a une maison où est né Bung Hatta. La maison est aujourd'hui un musée et une destination touristique historique. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum rumah kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Entah angin apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja cinta pergi sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku? Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku?
Voice of Indonesia.
I'm not afraid to die.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Dendangkan buat menghibur hitamu tingkah bertingkah gambus di peti alun mengalun lagu di dendang madah bermada kita bersamin langkah di alun kita bersamin langkah di alun kita bersamin langkah di alun.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.